Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui les décoraient, Jésus leur déclara : ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel signe ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit, « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi !» ou encore, « Le moment est tout proche. » Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre, et de désordre, ne soyez pas terrifiés, il faut que cela arrive d'abord. Mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume, il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies, des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Dimanche prochain, avec la fête du Christ-Roi, nous clôturerons l'année liturgique qui est sur le point de se terminer, où nous avons lu l'Évangile selon saint Luc. C'est une façon d'approfondir les Évangiles que de s'attacher ainsi, sur la durée d'une année, à puiser ici ou là, tout au long de l'Évangile, des passages tels que la liturgie nous les présente pour mieux saisir un petit peu le génie de l'évangéliste, en l'occurrence ici saint Luc, et nous passerons à saint Matthieu l'année prochaine, c'est-à-dire à partir dans deux semaines. Et quand on arrive ainsi à la fête du Christ-Roi qui termine l'année liturgique, et dimanche prochain nous entendrons donc un épisode où Jésus est crucifié entre deux brigands, c'est un passage propre à saint Luc. Quand on termine ainsi l'année liturgique, inévitablement, on a droit aux paroles de Jésus sur la fin du monde, sur la fin des temps, sur sa venue glorieuse, sur la fin de toutes choses, parce que ces paroles terminent effectivement les évangiles, que ce soit dans Marc, dans Matthieu, dans Luc, et donc on en lit des passages entiers, et on s'aperçoit que Jésus évoque bien des bouleversements. Les paroles que nous avons entendues, d'après Luc, ont été prononcées par Jésus dans le temple de Jérusalem. Les autres évangélistes nous disent que les disciples étaient partis avec Jésus au mont des Oliviers et que là, ils contemplaient en face le temple et ses belles constructions et que c'est à cet endroit-là, au jardin de Gethsémani, qu'ils ont posé la question à Jésus à propos du temple, ou plutôt que Jésus a annoncé sa destruction. Mais là, c'est en plein cœur du temple que Jésus va faire cette prophétie de la destruction du temple de Jérusalem. Oh, certains prophètes avant lui s'étaient permis des prophéties semblables, qu'on pense à Michée ou à Jérémie. Mais voilà, c'est une prophétie qui est lourde à entendre pour les disciples, qui est évidemment un bouleversement majeur. Et comment, si nous sommes un tout petit peu sensibles à la mentalité juive de nos frères juifs, comment ne pas penser que effectivement annoncer la destruction du temple, qui est le lieu où réside Dieu au milieu de son peuple, c'est un peu équivalent à annoncer la fin du monde, quoi, hein, pour un juif. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a droit à des chapitres dans tous les évangiles qui sont un peu brouillons. On se promène entre la destruction du temple de Jérusalem et puis la venue glorieuse de Jésus, en passant par des tas de choses catastrophiques, des épidémies, des guerres, des bouleversements en tout genre. Voilà, parce que c'est au fond impossible de pouvoir donner une sorte d'échelle de temps sur ces choses-là. Nous sommes attachés, nous, à chronologiser les choses. Mais ici, nous arrivons dans le domaine qui est celui de la survenue du royaume des cieux et d'une autre dimension dans laquelle toute l'humanité est appelée à entrer avec la venue glorieuse de Jésus. Bouleversement. Ainsi, la vie chrétienne, c'est une façon de nous dire que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, mais que nous avons à nous attendre à des bouleversements et qu'on ne doit pas en être surpris. Et que vouloir fossiliser, au fond, dans une espèce de crispation de toujours, n'est-ce pas, c'est se tromper, parce que on avance, l'histoire avance, notre propre foi avance, elle se transforme, nous marchons de découverte en découverte. Et ainsi, notre vie chrétienne est sans cesse en mouvement. Et quels sont les conseils que Jésus va donner alors que les disciples, ne s'intéressent pas tellement à la question du temple, mais se disent, pourvu qu'on ne soit pas au mauvais endroit, au mauvais moment, quand est-ce que ça arrivera? Et quels seront les signes que ça va se produire? Et Jésus va donner quelques conseils. Le premier, c'est celui-ci, discerner. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Discernez bien ce qu'on vous dira. Il y a des tas de faux prophètes qui vont venir, des tas de gens qui vont prétexter d'être envoyés par moi et qui vous diront des inepties. Donc faites le tri et apprenez à discerner. Ne vous laissez pas égarer. Le deuxième conseil qu'il donne, c'est à la fin de cet épisode, de ce chapitre, c'est celui de veiller. Vraiment, restez éveillés, priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Voilà, restez éveillés, restez debout. Ne vous laissez pas endormir. Et paradoxalement, un troisième conseil, c'est celui de rester calme. Ne pas rentrer dans une sorte d'attente fiévreuse des événements derniers, des spéculations hasardeuses sur la date de la fin du monde, sur les signes qui l'accompagnent. Gardez votre calme, dit Jésus. Ce n'est pas le plus important. Et d'ailleurs, un quatrième conseil serait celui-ci. Essayez bien de voir où est l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas tellement d'éplucher les bouleversements qui vont se produire, mais l'essentiel, c'est la venue glorieuse de Jésus que nous attendons. C'est ça que nous attendons, et non pas des événements catastrophiques. Nous attendons la venue glorieuse de Jésus, et donc il faut vraiment constamment savoir où est l'essentiel dans notre espérance et dans notre foi. Mais peut-être ce qui est caractéristique de ce passage de Luc que nous avons entendu, c'est que il y a toute une dernière partie qui concerne la persécution. La persécution au nom de Jésus. À cause de mon nom, on portera la main sur vous, dit Jésus. On vous persécutera, on vous livrera, on vous fera comparaître à cause de mon nom. C'est-à-dire, au fond, à cause de ce que je suis pour vous, à cause de votre foi, à cause de ce que j'ai fait pour vous aussi, à cause de votre salut. Et nous avons ici, très curieusement, alors qu'on interroge Jésus sur la destruction du temple, des annonces qui concernent la persécution des disciples et au-delà de tous les chrétiens. Et on s'aperçoit au fond que toutes les paroles que Jésus dit ici sont-elles réservées à la fin des temps ou ne sont-elles pas plutôt des réalités qui parcourent toute l'histoire humaine? Parce que la persécution des chrétiens, c'est quelque chose qui n'a jamais cessé. Elle a été forte dans les premiers temps de l'Église, mais elle est forte aujourd'hui encore, peut-être pas chez nous, mais en tout cas dans d'autres parties du monde. Songez que, je crois que c'est au Nigeria, il y a eu quelques 7000 chrétiens qui ont été mis à mort dans le premier semestre de cette année. Donc la persécution est toujours présente. Et Jésus donne un certain nombre de consignes pour la persécution. Et il dit que c'est l'occasion de rendre témoignage. Et que, au fond, l'objectif de notre vie chrétienne, c'est bien celle-là. C'est pas de nous sauver, moi, mon âme et Dieu, mais c'est de rendre témoignage à Jésus, à sa résurrection, à sa présence au milieu de nous. Et la persécution est l'occasion de le faire. La persécution, paradoxalement, nous met debout. Vous avez entendu le mot que Jésus a prononcé, afin de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et la persécution, la difficulté, l'affrontement, nous met debout pour pouvoir témoigner de la présence et de l'amour de Jésus. Et Jésus donne un certain nombre de points de repère en disant que dans ces moments-là, ce n'est pas la peine de se soucier d'avoir à préparer des paroles précises pour se défendre, mais que moi, je vous donnerai le langage qui convient à ce moment-là pour avoir une sagesse qui mettra en déroute tous vos adversaires, dit Jésus. Et encore, il affirme que dans ces moments-là, nous sommes protégés aussi. Alors, il emploie des images un peu curieuses, comme les cheveux de votre tête sont tous comptés, mais en tout cas, c'est bien l'image d'une protection que Jésus veut mettre en œuvre. Et il va terminer en disant, c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Par votre persévérance, que saint Paul traduit par un autre mot, votre endurance, que vous posséderez votre vie. Quand on regarde le grec de Luc, que vous posséderez votre vie. La vie éternelle dans laquelle nous entrons, nous sommes déjà entrés par notre baptême. Il nous faut quelque part aussi la conquérir par notre fidélité, par notre persévérance, par notre endurance. Donc on voit bien que ce que Jésus cherche, c'est moins de nous donner des détails croustillants sur les événements de la fin que de nous armer en quelque sorte, de nous fortifier pour que nous soyons forts dans l'épreuve et que nous puissions ainsi être ses témoins, car c'est un maître mot de l'évangile de Luc et des actes des apôtres qu'il a écrit aussi, c'est le témoignage, et on voit dans le livre des actes ce témoignage se déployer de proche en proche jusqu'aux extrémités du monde. Demandons cette force de l'Esprit Saint pour être nous-mêmes témoins dans la portion du monde dans laquelle le Seigneur nous a placés.